Merci de votre fidélité à Radio Ndekeloka. Il est 13h. Nous vous invitons à suivre la grande édition de la mi-journée avec Eda Lotin Diko. Eda, bonjour.
Bonjour Nina Verdian Yabode, bonjour à toutes et à tous. Reporters sans frontières alerte sur les conditions de travail des journalistes en République centrafricaine. L'organisation exige du gouvernement la protection des professionnels de médias contre les intimidations, menaces et arrestations arbitraires. Un taxi-brousse est entré en collision hier avec un camion à un peu plus de 30 km de Boire dans la Nanamabéré. Bilan, au moins 6 personnes tuées et près d'une dizaine de blessés. Et puis, près d'un mois après la rentrée scolaire en République centrafricaine, les cours n'ont pas encore commencé à l'école communautaire du village Gougoua dans le 9e arrondissement de Bangui. Retard dû au manque d'enseignants selon les parents d'élèves. Une balle difficile ce jour des fauves de Bazoubangui à Brazzaville après le Challenge Trophy. Alors qu'ils doivent rentrer le 29 octobre prochain, ils sont expulsés de l'hôtel et passent la nuit dans le vestiaire du gymnase Nicole Oba.
À la une de ce journal, Eda, Reporters sans frontières dénonce le projet des autorités centrafricaines de pénaliser les délits de presse en République centrafricaine, c'est-à-dire voter une loi permettant d'envoyer les journalistes en prison.
Dans un communiqué publié le 21 octobre, cette organisation des professionnels de médias note une régression de la liberté d'expression dans le métier du journaliste en République centrafricaine. Arrestations, menaces, censure sont les défis auxquels font face les journalistes centrafricains selon RSF. Précision de Igor Diaskin-Senapay.
Reporters sans frontières tire cette sonnette d'alarme pour exiger du gouvernement la protection des journalistes en République centrafricaine. Au lieu de protéger les journalistes contre les attaques, menaces et arrestations arbitraires, les autorités prennent des initiatives pour durcir la répression des médias, dit Sadji Boumaron, responsable de RSF. RSF s'alarme contre un projet de révision de la loi relative à la liberté de la communication en République centrafricaine, adopté seulement en décembre 2020. Selon Reporters sans frontières, si ce projet de révision de la loi sur la liberté de presse est adopté, les journalistes centrafricains pourraient être envoyés en prison pour des délits commis dans le cadre de leur travail. Aussi, le Haut Conseil de la communication régulateur des médias serait placé sous le ministère de la communication. Cette proposition de loi a été examinée par le ministre secrétaire général du gouvernement et doit être transmise au Conseil des ministres avant de la soumettre au Parlement. RSF rappelle que plusieurs journalistes ont été menacés, emprisonnés. Pour illustration, il donne 4 journalistes victimes de cette restriction de liberté dans l'exercice de leur profession. Il s'agit de Christian Azundao, directeur de publication du journal Le Charpentier, Landry Ulrich Nguema Ngokwele du journal Le Quotidien de Bangui, Eric Ngaba de Njoni Sango et Fiacre Salabé, journaliste indépendant. L'organisation s'indigne des menaces et intimidations à l'encontre de Radio Ndekeluka, média indépendant, auteur de diffusion des enquêtes mettant à nu les failles du gouvernement. Pour RSF, il est inadmissible que les autorités révisent le partenariat avec Radio Ndekeluka dans l'objectif d'augmenter les taxes qu'elle a toujours payées. La République centrafricaine occupe 101e rang mondial sur 180 pays dans le dernier classement de RSF de 2022 en matière de respect de la liberté de la presse.
Eda, la route continue de faire des victimes à l'intérieur du pays.
Un accident de la route s'est produit hier au village Yaketebaï à 33 km de Boire sur l'axe Garamboulaye. Bilan provisoire, au moins 6 personnes ont trouvé la mort et 7 blessés admis actuellement à l'hôpital de Boire. Selon des informations, un taxi-bus qui transportait des passagers à destination de Garamboulaye est entré en collision avec un camion de Djirou qui aurait dérapé après la crevaison d'un de ses pneus.
Restant toujours à Boire, ville qui doit accueillir les festivités de la journée mondiale de l'alimentation, la célébration est de nouveau reportée.
L'annonce a été faite mercredi dernier par le ministre de l'Agriculture, Eric Okosekamo, qui était à Boire. La journée mondiale de l'alimentation, célébrée le 16 octobre de chaque année, elle a été reportée pour le 29 octobre et doit de nouveau être prolongée. Le membre du gouvernement indique qu'une nouvelle date sera communiquée après avis du Conseil des ministres. Écoutons Eric Okosekamo, ministre de l'Agriculture, au micro de notre correspondant à Boire,
Nous avons fait le tour des sites dédiés à l'exposition vente. Force est de constater que les intempéries que la ville de Boire a connues depuis un certain temps n'ont pas permis le contingent péruvien qui nous aide dans ce sens, n'a pas pu faire les travaux selon les délais qui étaient initialement prévus. Donc ils ont demandé un délai supplémentaire pour la réalisation des travaux et aussi l'état de route, parce que les pluies aussi ont dégradé assez d'une manière avancée les routes qui relient Bangui à la ville de Boa, surtout au niveau de Trobo-Sembélé-Yaloké, 17 km, qui est vraiment dans un état très avancé de dégradement, où nous avons sollicité le concours de l'ONEM qui est en train de travailler. Il y a le tronçon entre Bossentélé-Baoul aussi, moins 20 km avant aussi, qui est un peu dégradé. Que tout ne peut pas être fin prêt à cette date de 31. Nous avons décidé de nous en référer au gouvernement pour voir l'éventualité d'un grand report. Quand je sortirai du Conseil des ministres, le Conseil des ministres va fixer une nouvelle date.
Dans la suite de ce journal, l'école communautaire du village Ngougoua, dans le 9e arrondissement de Bangui, manque d'enseignants.
Le cours tard a démarré dans cette école communautaire depuis le lancement de la rentrée scolaire le 27 septembre dernier. Les parents appellent à l'aide. François Kossimi-Palatou a fait un tour dans le village Ngougoua.
Nous sommes à 25 km à l'est du centre-ville de Bangui, village Ngougoua, dans le 9e arrondissement. Le ciel est un peu sombre. Un drapeau centrafricain délavé, déchiré et accroché à un poteau en bois flotte sur le hangar en tôle de 2 mètres sur 3. 10 bancs servent d'assises dans l'unique salle qui regroupe les élèves de CI et CP2. Alignés au nombre de 8 sur chaque banc, certains enfants disposent d'effets scolaires tels qu'ardoises, mais d'autres non. Des élèves dans une salle de classe, mais pas d'encadreur. Entre les travaux champêtres et l'enseignement, le seul maître parent qui tenait la manette de l'éducation au village Ngougoua a fait son choix. Les élèves sont abandonnés à leur triste sort depuis le lancement de la rentrée scolaire le 26 septembre dernier. Dieu merci Justin, président de l'association des parents d'élèves du village Ngougoua.
Nous éprouvons des difficultés pour payer l'enseignant qui a finalement choisi de se consacrer à ses travaux champêtres. Nous sommes tellement inquiets, nous demandons au gouvernement de nous envoyer au moins un enseignant qualifié.
Parmi les élèves de l'école Ngougoua figure Hélène, une fille de 11 ans en classe de CP2. Elle appelle les dirigeants à l'aide.
Nous avons pris du retard parce qu'on n'a pas d'enseignants. Nous aimerions qu'on nous construise des salles de classe allant du CI jusqu'au CM2. Il nous faut aussi des fournitures scolaires.
Face à cette situation qui inquiète, les autorités du village Ngougoua ont fait appel au directeur de l'école Mboko. Celui-ci promet une solution rapide. Gérard Ponzé.
Il y a quand même deux volontaires qui se sont positionnés. Et parmi ces deux volontaires, on va choisir une seule personne avec qui on va essayer de travailler avec elle, de lui montrer comment faire les répartitions séquentielles, comment garder le cahier journal, les registres d'appels. Et comme ça, on puisse démarrer.
Plus de 50 enfants sont scolarisés au village Ngougoua. Cependant, beaucoup reste à faire pour améliorer la qualité de l'éducation de ledit village. En plus du manque d'enseignants, il faut aussi ajouter le manque des infrastructures scolaires.
Vous écoutez Radio Ndekeluka Busangwa, le directeur régional de la fonction publique et de la réforme administrative de l'OAM s'indigne de l'absence de certains fonctionnaires et agents de l'État à leur poste d'affectation.
Lors d'une réunion la semaine dernière avec quelques fonctionnaires en poste, Cyril Bagaza a appelé ceux qui n'ont pas encore pris service à le faire sans attendre sous peine de sanction. Il est au micro de notre correspondant Raphaël Nganari.
J'ai convoqué tous les fonctionnaires et agents de l'État pour présenter les feuilles de route afin qu'ils puissent respecter ces feuilles de route. Nous sommes en train de travailler avec ceux qui sont en poste pour relever le défi. Et ceux qui restaient encore à Bangui, vraiment je les demande de regagner leur poste parce que le directeur de cabinet de ministre de la fonction publique et de la réforme administrative m'avait envoyé une fiche d'identification. Et j'ai commencé à mettre cette fiche d'identification en circulation. C'est l'intéressé lui-même qui devait remplir cette fiche d'identification, cacheter, signer et me remettre afin que je puisse envoyer à l'hiérarchie au niveau de Bangui.
Chapitre santé, dans la lutte contre le cancer en République centrafricaine, ce mois d'octobre est appelé Octobre Rose, consacré à la sensibilisation contre cette pathologie.
La BGFIBank a organisé vendredi dernier une journée pour informer son personnel sur le danger que représente le cancer du sein et comment le prévenir. Reine Fabienne Dotiga.
Le cancer est la première cause de mortalité chez les femmes en République centrafricaine, selon professeur Richard Mbalé, gynécologue obstétricien qui a sensibilisé le personnel de BGFIBank sur cette maladie. En 2021, 53% des cas de cancer référés à l'hôpital communautaire de Bangui sont des cancers du sein. Il appelle non seulement les femmes, mais aussi les hommes à se faire dépister.
Notre pays n'a pas beaucoup de moyens pour la prise en charge de ces cancers. Pour l'année 2021, à l'hôpital communautaire, on a eu sur 300 femmes qu'on a hospitalisées, 83 étaient hospitalisées pour les cancers. Et ce qui vient en tête, c'est le cancer du sein qui représente 53%. On a perdu malheureusement beaucoup de femmes à cause de cette maladie.
Maître Crisia Lomande Kassima a souffert en 2013 du cancer de sein. Elle en est guérie après une évacuation en France.
Je me suis battue contre la maladie pendant 11 mois. Du jour au lendemain, j'ai laissé mon travail. Je suis partie, mais en partant, derrière moi, je laissais 15 orphelins dans ma propre maison et revenir pour tenir en main mon orphelinat.
Touché par cette campagne de sensibilisation, le personnel féminin a accepté sur place de se faire dépister. Hervé Ghislain Kogbomayogo, directeur général de la BGFI Banque, s'engage à faire un don en matériel au ministère de la Santé.
Le rôle d'une entreprise n'est pas seulement de faire du profit, c'est d'impacter aussi positivement son environnement. Et c'est dans ce sens que nous avons pris cet engagement, budgétiser et mettre à la disposition du public centrafricain un appareil permettant de diagnostiquer le cancer de sein, donc la mammographie.
Aujourd'hui, selon les professionnels de santé, le cancer est la première cause d'évacuation sanitaire en République centrafricaine. Et pour lutter contre le cancer du sein, la palpation et la consultation gynécologique restent les meilleurs moyens de prévention.
Actualité à l'international. Au Niger, au moins 11 personnes ont perdu la vie dans des embuscades djihadistes près de la frontière malienne.
Le drame a eu lieu avant-hier dans la commune rurale de Tizi Goro lorsque des djihadistes ont mis la main sur les conducteurs de camions qui transportaient des produits vivriers et du matériel de construction. Selon plusieurs sources, deux camions ont été incendiés et un troisième chargé de produits alimentaires a été emporté par les assaillants.
Et puis, aide à recherche de la paix entre la Russie et l'Ukraine, le président en exercice de la CDAO, Umaro Sissoko Embalo entame aujourd'hui une visite officielle à Moscou.
Après le président de l'Union africaine et du Sénégal, Macky Sall, le président bissau-guinéen est le second chef d'État africain qui va rencontrer aujourd'hui Vladimir Poutine, président russe. Je vais non en tant que président de Guinée-Bissau, mais en tant que président en exercice de la CDAO pour expliquer à Poutine qu'il est important de parler de paix car le monde est troublé, a déclaré le président bissau-guinéen. Après Moscou, le président Umaro Sissoko Embalo est également attendu à Kiev dans le cadre de cette mission de paix. La page sport, c'est avec vous Claire Assambadenga. Claire, bonjour.
Bonjour à vous Eda Lotindiko, bonjour à tous.
Mbal, les fauves sont toujours à Brazzaville au Congo et leur situation devient de plus en plus critique.
Oui Eda, ils ont quitté l'hôtel où ils étaient logés par la Confédération africaine de handball faute de moyens financiers. Le Challenge Trophy est terminé, chaque délégation doit se prendre en charge avant son retour. Ce matin, les joueurs se sont réunis et ont posé des conditions à leurs dirigeants. Ils réclament une prime individuelle de 700 000 francs CFA pour leur participation à ce tournoi. Bienvenue Bello a suivi le dossier.
La délégation centrafricaine, estimée à une trentaine de personnes, est actuellement logée dans le vestiaire de la gymnase Nicole Oba où s'est déroulé le Challenge Trophy. Des matelas fournis par la Fédération congolaise de handball ont été posés à même le sol pour permettre aux centrafricains de passer la nuit. Ange Dimassina, capitaine des moins de 20 ans, présente les plaintes des joueurs.
Nous dormons au sol sur les matelas. Il n'y a même pas de couverture de drap pour que les gens se protègent. Nous sommes au bord du feu et pour se nourrir aussi, c'est pas du tout facile pour nous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi jusqu'à samedi. On ne sait pas ce qu'on va faire ici dans Brazza. Sans frais de mission ni un sou pour prendre soin des joueurs. Il y a des joueurs qui sont tombés malades, il y a d'autres qui souffraient des chocs, des douleurs, tout ça là. Il n'y a même pas de médicaments, il n'y a même pas de soins. On ne sait pas comment vivre. Nous revendiquons auprès du gouvernement un appui financier le plus vite possible dans un bref délai. Sinon, nous sommes à l'étranger, nous ne savons pas ce que nous pouvons faire.
Partis sans le soutien du gouvernement, la délégation centrafricaine se trouve actuellement dans une situation déplorable. Wilfried de Bonheur Basanganam, secrétaire général de la Fédération centrafricaine handball appelle les autorités de Bangui à soutenir l'équipe centrafricaine car elle va rester à Brazzaville jusqu'au 29 octobre.
Les enfants se sont réunis et ils sont venus vers nous avec quelques revendications. Nous leur avons dit que le dossier que nous avons déposé au niveau du gouvernement est resté au niveau des services de dépenses au ministère des Finances. Donc nous sommes venus comme ça les mains vides. Ils ne peuvent pas venir comme ça les mains vides défendre les honneurs du pays avec quelques récompenses et repartir bredouille. Alors nous implorons les autorités de notre pays de penser à ces enfants. Et ce que nous déplorons, c'est quand ils vont aller faire un sitting devant l'ambassade, je crois que ça va essayer de ternir l'image du pays et ce n'est pas bien.
Côté prestations au Challenge Trophy, les fauves de moins de 20 ans ont remporté la médaille de bronze. Chez les cadets, Garcia Yegué est désigné meilleur joueur du tournoi. En attendant le samedi pour leur retour, en passant par Kigali avant d'arriver dimanche à Bangui, les fauves doivent broyer le noir pour survivre.
Pour rectification EDA, les fauves réclament une prime individuelle de 700 000 francs CFA pour leur participation à ce tournoi.
Ainsi prend fin ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir écouté. Tout de suite la version en sango.